RFI, 8h30 à Paris, 6h30 à Ouagadougou et en temps universel.
RFI Matin.
Un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis. Retour sur la visite d'Ousmane Sonko au Burkina Faso.
Arrivé vendredi après-midi, reparti hier soir, le Premier ministre sénégalais a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré, des membres du gouvernement de transition également, et assisté à l'inauguration du mausolée Thomas Sankara. La dissolution des partis politiques au Mali fait réagir à l'international. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme parle d'un décret draconien et qui réduit au silence les voix dissidentes du pays. L'ONU s'inquiète également des enlèvements de responsables politiques. Passage par la Côte d'Ivoire, ensuite à la rencontre des fidèles musulmans qui partent pour le Hajj en Arabie Saoudite. Les premiers d'entre eux ont déjà pris l'avion. Lui est plein de promesses. Francis Mouzou, 23 ans, conserve sa ceinture MMA de la Ligue Eric Favre Nation. Le combattant ivoirien a enflammé la salle à Abidjan hier. Et puis le dossier de ce journal consacré à un film sur la dépigmentation. Ça s'appelle Timpitampa et c'est signé Adama Bintas, réalisatrice sénégalaise.
Un peu plus de 24 heures et puis s'en va. Ousmane Sonko a achevé hier soir sa visite au Burkina Faso.
Le Premier ministre sénégalais a, entre autres, assisté ce samedi à l'inauguration du mausolée dédié à Thomas Sankara et à ses 12 compagnons assassinés en 1987. Avant cela, Ousmane Sonko a été reçu par le chef de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que par des membres du gouvernement. Au programme des discussions, la coopération entre Dakar et Ouagadougou et les défis sécuritaires alors que le Burkina a connu de nouvelles attaques ces derniers jours dans le nord et dans l'est du pays. Retour sur cette visite avec Esdras Dikoumana.
21 coups de canon en hommage au capitaine Thomas Sankara et ses compagnons. Le mausolée a été inauguré en présence de délégations étrangères, Sénégal, Tchad, AES, mais à l'absence du capitaine Ibrahim Traoré qui revendique régulièrement l'héritage du père de la révolution burkinabé. Le Premier ministre Rima Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a lu son message.
Ce mausolée que nous inaugurons aujourd'hui sur la terre libre du Burkina Faso n'est pas une simple bâtisse. C'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons.
Avant la cérémonie, la délégation sénégalaise a échangé avec des membres du gouvernement burkinabé. Dakar, Ouagadougou se rejoignent sur l'affirmation de leur souveraineté. Ousmane Sonko plaide donc pour une redynamisation de leur coopération.
Cette dynamique qui est déclenchée au Burkina, qui est déclenchée au Sénégal et certainement dans d'autres pays, doit être renforcée par la collaboration, l'échange d'expériences et également d'informations. Nous sommes confrontés à deux défis, le défi sécuritaire et le défi économique. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons relever ces défis en maximisant sur nos convergences plutôt que sur les quelques aspects sur lesquels chacun peut avoir une démarche qui lui soit particulière.
On ne sait pas, en revanche, si Ousmane Sonko a évoqué le cas de son avocat, Maître Guy Hervé Kam, emprisonné depuis plus d'un an au Burkina Faso.
Esdras Dikoumana. Après la dissolution de tous les partis politiques au Mali, les Nations Unies réagissent.
Toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière de droits humains. C'est signé Volker Turk, haut commissaire onusien qui demande à Bamako d'abroger ce décret qu'il qualifie de draconien. Sa porte-parole, Ravina Shamdassan, prend la parole ce matin sur RFI.
C'est très important que les gens peuvent parler, qu'ils ont des représentants politiques qui peuvent réagir, aider à résoudre des problèmes. Mais avec ce décret, vraiment, ça réduit au silence les voix dissidentes.
Le Haut Commissariat s'inquiète aussi des enlèvements par la sécurité d'État de responsables politiques.
Oui, nous demandons aux autorités de transition de libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées pour des motifs politiques. Nous avons vu qu'au moins 3 membres de l'opposition ont été arrêtés à la suite des manifestations. Et il n'y a pas d'informations sur les lieux où ils se trouvent et ils ne sont pas les seuls. Ils sont les dernières victimes d'une série de disparitions forcées qui remontent à 2021. Donc, nous demandons au système judiciaire de Mali de vraiment protéger les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique, mais aussi de vraiment mener des enquêtes.
Ravina Chamdassane, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, jointe par David Baché. Autre colère exprimée, celle de la trentaine de membres de la diaspora malienne en France, réunis devant l'ambassade du Mali à Paris hier pour dénoncer les décisions récentes des autorités de transition. Les relations entre Orano et les autorités nigériennes qui n'en finissent plus de se dégrader. Les locaux du géant français de l'uranium et de ses filiales à Niamey ont été perquisitionnés la semaine dernière. Et hier, le quotidien britannique Financial Times a assuré qu'Orano envisagerait de vendre ses sites miniers au Niger. Le groupe, sans nier ni confirmer, a reconnu que des acteurs s'étaient montrés intéressés. Magali Lagrange.
Plusieurs parties ont exprimé leur intérêt pour les actifs miniers du groupe au Niger et sont libres de soumettre des offres si elles le souhaitent, indique Orano dans une déclaration transmise à l'agence France Presse sans donner plus de précision. Orano, acteur historique de l'exploitation de l'uranium au Niger, a plusieurs sites dans le nord, celui de la Somaïre, dont le groupe a perdu le contrôle en fin d'année, où sont stockées plus de 1000 tonnes d'uranium d'une valeur qu'Orano estime à 250 millions d'euros, celui de Cominac, qui n'est plus exploité et dont les travaux de réaménagement sont suspendus, le permis d'exploitation du troisième, celui d'Imouraren, lui a été retiré l'an dernier. C'est un véritable bras de fer qui s'est engagé entre Orano, dont l'État français détient 90% du capital, et Niamey, qui revendique sa souveraineté, qui a tourné le dos à Paris et qui lui préfère désormais d'autres partenaires comme la Russie. Le groupe français, qui se dit ouvert au dialogue, finira-t-il par céder ses actifs nigériens ? Sa priorité actuelle, précise-t-il, reste de poursuivre les procédures internationales d'arbitrage engagées. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements a été saisi.
Les explications de Magali Lagrange.
600 premiers pèlerins ivoiriens se sont envolés hier soir vers l'Arabie Saoudite pour le Hajj.
Et au total, ce sont 10 000 ivoiriens qui sont attendus pour accomplir ce voyage spirituel à Médine et à la Mecque. Passage obligatoire, en tout cas pour les musulmans qui en ont les moyens. Et pour cette édition 2025, la grande mosquée d'Abidjan s'est transformée en véritable terminal du pèlerinage. Benoît Almeras est allé y promener son micro.
Sur l'esplanade, plusieurs dizaines de pèlerins patientent sous des hangars préfabriqués. Là, leurs passeports sont délivrés, leurs visas vérifiés, leurs bagages fouillés. Les voyageurs n'ont plus qu'à embarquer dans les bus, direction l'aéroport.
C'est bien structuré cette année, c'est bien organisé cette année, ça va.
Kamissa a 45 ans, elle voyage pour la première fois comme 80% des partants.
Je suis contente parce que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est une grâce. Comment tout le monde n'a pas les moyens de le faire.
Kamissa a déboursé près de 5000 euros, de quoi payer son séjour et l'une des 388 places à bord du premier des 17 vols affrétés vers Médine. Son chef de groupe, l'imam Mostafa Sy, encadre des pèlerins depuis 6 ans.
C'est un peu compliqué, effectivement, 388 personnes, mais nous avons vraiment environ 26 encadrés. C'est important, car vraiment les voyages de Hajj, c'est pas facile. Un mois d'absence, vraiment, c'est pas du tout facile.
Djebre Moumine coordonne les départs pour le commissariat du Hajj. Pour lui, c'est la routine.
Depuis un mois, deux mois, déjà, nous avons préparé, planifié. Ça rend tout le processus facile et ça nous amène vraiment à être plus relax.
Les départs des pèlerins ivoiriens sont prévus jusqu'au 26 mai. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Abidjan, où avait également lieu hier soir la troisième nuit de combat MMA de la Ligue Eric Favre Nation. Et c'est à domicile que Francis Mozou en ressort le grand gagnant. À 23 ans, il conserve sa ceinture après une victoire rapide face au Tunisien Nizar Yacoubi. 9 autres combats avaient lieu, mais la star de la soirée, c'était bien Francis Mozou. Molemine Sissavané était sur place.
Une ceinture remise en jeu et défendue par le champion en titre.
Francis Mozou, champion en titre de la Ligue Eric Favre Nation, le reste. Dans l'octogone, l'Ivoirien a pris l'ascendant sur Nizar Yacoubi. Le Tunisien, qui n'était pas son adversaire initial, a remplacé l'Égyptien Sodak. Francis Mozou.
Après ça, moi et mon coach, on a pu travailler. On a changé plutôt les données. On a mis ces techniques-là en place pour pouvoir le battre au premier round. Peut-être les contrats vont venir de partout. Pourquoi pas ne pas conquérir le monde. C'est mon rêve le plus fou, quoi.
Eric Favre, patron de la Ligue après ce sacre de Mozou, malgré la dimension imprévisible de l'affiche.
On a vu un combat qui était intéressant. On a eu un opposant à Mozou différent que celui qui était prévu, mais on a eu un bel opposant parce que le Tunisien avait quand même une belle technique. Donc Mozou évolue, il a beaucoup d'avenir.
Plein de promesses et d'expérience pour son âge. Ibrahim Faye, cofondateur de la Ligue, explique le principe de cette unique ceinture.
C'est quelqu'un qui a fait plusieurs combats en MMA et qui a plus de 100 combats en toutes disciplines confondues. Donc, il a atteint un niveau de crédibilité, un niveau d'expérience qui lui permet de faire un combat pour une ceinture.
Au fur et à mesure que la Ligue s'étend, notamment en août prochain à Montréal et en novembre à Conakry, plus de ceintures seront mises en jeu. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Et c'est le titre banger du rappeur ivoirien Imra qui a été repris par toute la salle. L'actualité du continent, en bref, plus de 270 migrants secourus hier en Méditerranée par l'Océan Viking. À trois reprises, le navire est venu en aide aux passagers d'embarcations de fortune au large des côtes de la Tunisie et de Malte. L'an dernier, pour rappel, près de 2500 personnes ont disparu ou sont mortes en mer Méditerranée, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations.
Enfin, Nemo, le dossier de ce journal consacré à la dépigmentation.
Ce fléau dont on parle avec humour et audace dans le film Timpitampa, réalisé, tourné et produit au Sénégal et qui a reçu le prix mention spéciale au dernier FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Léa Lisa Vesteroff est allée voir pour nous ce premier film de la réalisatrice sénégalaise Adama Bintasso.
Grand concours de beauté des établissements supérieurs de Dakar.
En colère de voir sa mère atteinte d'un cancer de la peau suite à l'usage de crème blanchissante, un jeune homme infiltre un concours de beauté déguisé en fille. Un scénario osé qui s'est imposé à la réalisatrice Adama Bintasso.
Autour de moi, j'ai vu vraiment que c'est devenu un phénomène. Des camarades qui, quand elles devaient se marier, tout d'un coup, deviennent claires. Je ne comprenais pas ce changement de couleur de peau et tout le mal que les femmes se donnaient. Et c'est un sujet qui me parle vraiment à cœur.
Avec humour, le film déconstruit ce fléau social aux conséquences souvent graves et touche un véritable tabou. Papa Lidiop, acteur principal de Timpitampa.
Parce que la plus souvent, il y a nos mamans qui se dépigmentent. Donc c'est très difficile de dire à ta maman, arrête de se dépigmenter et tout ça. Il y a cette pudeur qui est en nous. Donc c'est très, 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 très tabou.
Selon une étude de 2018, 67% des femmes à Dakar utilise des produits blanchissants. D'où l'intérêt que le cinéma s'empare de ce sujet pour la coproductrice Véronique Silla-Besson.
C'est une problématique mondiale. Moi, quand je vois Beyoncé, qui est censée être la première chanteuse de couleur dans le monde, aujourd'hui elle n'est plus de couleur. Plus ça va, plus elle éclaircit. Et elle représente un modèle pour toutes les femmes. Donc c'est à se demander où est la fierté.
L'espoir est grand que Timpitampa, ni noir ni clair en français, fera date. Le teen movie sénégalais est à l'affiche dans 12 pays dans le monde et 22 salles sur le continent. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Le film Timpitampa qui sera projeté ce mardi 20 mai à 15h au pavillon africain du Festival de Cannes. Le Sénégal, où si les publicités pour les produits qui éclaircissent la peau sont interdites depuis 2019, la réglementation reste très faible et les commerces abondent de crèmes qui contiennent le fameux hydroquinone qui blanchit la peau et est toxique pour l'organisme. Depuis une vingtaine d'années, l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle lutte contre le phénomène. Pour la dermatologue Dr Mam Aminata Ndirgay, membre de l'organisation, il y a urgence à faire des contrôles et interdire un certain nombre de produits.
Les produits sont accessibles au niveau de nos marchés, que ce soit l'hydroquinone, le glutathione, les savons à base de mercure. À partir de 500 à 600 francs CFA, sans compter ceux qui sont sur les réseaux, qu'on ne maîtrise pas, TikTok, etc. Alors que les produits qui ne contiennent aucun produit nocif pour la santé coûtent un peu plus cher, donc ce qui fait que l'attirance à prendre ces produits qui coûtent moins cher sera beaucoup plus facile. Tout en sachant que ces produits qu'on applique sur la peau peuvent facilement entrer dans notre corps, ce qui peut entraîner le diabète, l'hypertension, des insuffisances rénales, des atteintes au niveau oculaire et j'en passe, sans compter le cancer aussi de la peau qui autrefois n'existait pas sur la peau noire, mais avec l'avènement de la dépigmentation prend une ampleur. Il est temps de contrôler ce qui se passe au niveau des marchés. Je pense que c'est ça le premier travail à faire et ainsi pouvoir faire le tri par rapport à tout ce qui est nocif pour la population.
Mama Minata Ndirgay au micro de Léa Lisa Vesteroff qui signe le dossier de ce journal depuis Dakar.
Merci Nemo en fils.